Là, il y a du son. Il y a du son. C'est bon, il y a du son. Attends ça. Il y a du son. On est bon. On est bon. Comment ça, pas de son? Normalement, il y a du son maintenant. Il y a toujours pas de son? Allô, allô, Houston. Maintenant, c'est bon? Maintenant, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Compliqué, cette histoire. Tov! Donc, Boker Tov, les Koulam, Shavua Tov. Et on revient donc dans notre étude. Dans notre étude de la Mishnah, de Maseret Avot, et nous sommes arrivés au premier chapitre, Mishnah 4. Donc c'est parti. Et donc, on vient de terminer la Mishnah donc, de Antigonos Ishsoho, et comme je l'ai dit la semaine dernière, eh bien, Antigonos nous montre bien que nous, le nom qu'il porte nous montre qu'on est bien impliqué dans la période helléniste, dans la période grecque. Et donc, comme je l'ai dit et redit, il est très important de savoir quelle est l'ambiance, l'endroit et le moment dans lequel nos Chachamim parlent. Parce que bien que leurs enseignements aient une valeur intemporelle, bien sûr, il n'empêche que le moment, les défis, l'endroit de là où ils parlent, eh bien, c'est un enseignement également pour nous et ça nous aide à comprendre encore mieux ce qu'ils ont dit. Et donc, je vais vous donner un exemple pour bien étayer cela, un exemple que j'ai peut-être déjà donné souvent, mais c'est un exemple qui est pour moi très probant. Vous savez, il y a une histoire dans la Torah qui nous a raconté avec Abraham qui reçoit les anges. Il y a trois anges qui viennent dans la tente d'Abraham, il les reçoit et machin. Et là-bas, eh bien, on va nous dire que Abraham discute avec eux. Et la grande question est de savoir, est-ce que si toi et moi on avait été là-bas, eh bien, on aurait vu Abraham discuter bam bam. Toute cette histoire-là s'est passée dans la prophétie qu'a reçue Abraham. C'est-à-dire que si toi, tu avais été là-bas, tu aurais vu un vieux monsieur qui dort. Et que donc, pour lui, lorsqu'il a vu ces trois hommes, en fait, ces trois hommes ne sont pas des hommes, ce sont des esprits qui dévoilent le dévoilement de Dieu. Ça, c'est l'avis du Rambam. Le Rambam n'est pas du tout d'accord. Lui, il pense que si tu avais été là, tu aurais vu trois personnes qui viennent chez Abraham. Mais, c'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas très grave. Ça arrive tout le temps. Mais sauf que c'est la seule fois où le Ramban dira « Assour l'Amin bedivrei Rambam ». Assour de croire ce qu'a dit Maïmonide. Et pourquoi tu es aussi virulent? C'est bien, alors tu n'es pas d'accord. Pourquoi tu es aussi virulent? Assour. Eh bien, quand on replace les choses dans leur contexte, qu'est-ce que nous dit le Rambam? Le Rambam nous dit que le dévoilement de Dieu, ça passe par trois esprits, par trois idéaux spirituels. Maintenant, le Rambam, il vit dans les terres de l'islam, il n'en a rien à faire, ça peut faire aucun mal ce qu'il dit. Alors que le Ramban qui vit à Barcelone sous l'influence des chrétiens, t'imagines ce que ça peut faire de dire que c'est quoi le dévoilement de Dieu, ces trois dimensions spirituelles? Attends, mais plus trinité que ça, tu meurs. Et donc le Ramban, sachant très bien dans quel milieu, dans quelle époque il vit, il dit « Assour la Amin Bezé ». On n'a pas le droit d'y croire, alors qu'il est très fort probable que c'est le Rambam qui avait raison, né l'Omechané. Le Ramban a une responsabilité historique. Pourquoi je dis tout cela? Eh bien, simplement pour comprendre que la Mishnah qu'on va lire maintenant, la Mishnah de Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, eh bien, d'abord, il faut la remettre dans son contexte. Qui sont Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan? À quel moment parlent-ils? Eh bien, les amis, ce sont des rabbins qui vivent une époque extrême. On les connaît pas, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on connaît les autres antagonistes de cette époque-là, très bien, mais on ne les connaît pas, eux deux, qui ne sont rien d'autre que le Nassi à Sanhedrin et le Av Beit Hadin, qui sont les chefs de la Torah, les chefs de la transmission de la Torah du peuple juif. Quelle est leur époque? Eh bien, Rabotai, leur époque est très simple. Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan sont les rabbins de Hanouka. C'est-à-dire que nous, on connaît Yehuda Maccabi, tout ça. Yehuda Maccabi, ce n'est pas le rabbin. Les rabbanim de l'époque de Hanouka sont Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan. Ah, tellement que Yosef ben Yochanan, Yerushalayim, se fera tuer pendant le Mered. Donc, nous sommes face aux rabbins de l'époque de Hanouka. C'est-à-dire aux rabbins qui vivent la guerre contre les Grecs. Et ils comprennent tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler que de Yosef ben Yoézer, mais les deux comprennent une chose. C'est qu'il faut mettre l'accent sur Ben, tout simplement, ce qui va sauver le judaïsme à l'époque de Hanouka. Qu'est-ce qui sauve le judaïsme à l'époque de Hanouka? Qu'est-ce qui nous permet de partir en guerre? Qu'est-ce qui nous permet de ne pas tomber dans une hellénisation, une assimilation énorme? C'est la maison. La maison juive. La maison juive qui donne une éducation de kishkes, comme on dit en arabe, de tripes à ces jeunes. Pourquoi est-ce que tu es fier d'appartenir au peuple juif? Pourquoi est-ce que tu es fier d'être juif? Pas parce que tu l'as appris dans la halakha, mais parce que tu l'as appris dans toutes les cuillères à soupe de ta maman, que tu es fier de qui tu es. C'est un enseignement primordial qu'on a appris et qu'on a appris à la maison et pas au Beit HaMidrash. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on veut symboliser cette victoire-là, Hanouka, eh bien, on va mettre une lumière, la Hanoukia. Mais où est-ce qu'on la met? Eh bien, on la met devant la porte de la maison pour qu'elle éclaire la mezouza. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle éclaire la maison juive. Parce que c'est ça le projet, le produit, slicha, qui a permis à la réussite du miracle de Hanouka, à la réussite de la guerre contre les Grecs. C'était bel et bien le fait qu'il y avait encore, dans une partie du peuple, eh bien, cette appartenance, ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'appartenir au peuple juif. Rabbi et Yosef Ben Yehuda comprennent très bien que cet enseignement-là, tu peux le donner au Beit HaMidrash, mais ça ne suffira pas. Tout doit être un enseignement qui commence à la maison. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces deux rabbins qui sont les rabbins de Hanouka s'appellent tous les deux Yosef. Incroyable. Yosef ben Yoézer, c'est le diminutif de Yosef. Yosef ben Yochanan, diminutif de Yosef. Ça, les deux s'appellent Yosef. Et vous savez quoi? La tradition juive, depuis plus de 1000 ans, a décidé de lier la fête de Hanouka au parashiot de Yosef. Nous lirons toujours les parashiot de Yosef, Vayeshev Miketz, Vayigash, pendant Hanouka. C'est-à-dire, soit une, soit deux. Pas les trois, évidemment. Hanouka, c'est qu'une semaine, c'est que 8 jours. Mais soit on aura les deux, parce qu'on aura deux Shabbatot dans Hanouka, soit on aura une, mais ça sera toujours les parashiot. Si on n'en a qu'une, c'est ou Vayeshev ou Miketz. Si on en a deux, ça peut être Vayeshev Miketz ou Miketz, Vayigash. Mais quoi qu'il en soit, les parashiot de Yosef sont au centre de Hanouka. Lama. Eh bien, parce que Yosef, qu'est-ce qui lui a permis de ne pas tomber? Eh oui, Yosef était extrêmement tenté par l'assimilation de son époque, à savoir la femme de Potiphar, qui n'arrêtait pas de le chauffer pour qu'il tombe avec elle. Tomber avec elle, ça signifiait l'assimilation à l'Égypte. Et le Midrash nous dit que comment ça se fait qu'il n'est pas tombé finalement alors qu'il avait décidé? On dit, va y avoir à Baïta la sorte Melarto. Rav Shmuel, sont deux Amoraïm qui se disputent. L'un dit, Melarto Mamash, il était venu faire son travail comme tous les jours à la maison. Et l'autre, il dit, non, il était venu faire Hanhan avec elle, il avait décidé aujourd'hui. Et que finalement, pendant les préliminaires, il a vu Dmout Diokno chez la vive, il a vu le visage de son père et il a compris que s'il tombait avec la femme de Potiphar, ses enfants ne ressembleraient plus à son père. C'est la maison! Le visage de son père à la maison, qui a vu que s'il faisait ça, ses enfants ne seraient plus les enfants de cette maison. En d'autres termes, Yosef est lié complètement à Hanouka. Les rabbins de Hanouka s'appellent tous les deux Yosef et vont ramener tout à la maison. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur Yosef ben Yoézer. Yosef ben Yoézer, Ish Sereda. Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim, Kiblou Mehem. Alors, c'est quoi cette histoire? Kiblou Mehem? Ce sont tous les deux les élèves de Antigonos Ishso. Il aurait dû avoir marqué Kiblou Mimeno. Il y a des versions de traité de Maseret Avot où il y a marqué Kiblou Mimeno. Mais nous, on a Kiblou Mehem. Alors, certains disent qu'ils ont reçu de Antigonos et de Shimon HaTzadik qui avait, Baruch Hashem, vécu une très très longue vie. Donc, j'ai eu le temps d'étudier chez les deux. Mais ça peut vouloir dire également tout simplement que Antigonos était les deux. Qu'est-ce que ça veut dire les deux? À partir de Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, la Torah passe par deux, par un couple. Commence la période qu'on appelle les Zougot. Une période qui va s'étendre sur à peu près 250 ans, où il y a un couple qui enseigne la Torah. Un couple de Chachamim qui sont l'un porté plus sur la Midat Din, sur la rigueur, et l'autre porté plus sur la Midat Chesed. En général, ce n'est pas toujours le cas. En général, le Nasi à Sanhedrin, c'est Chesed. Et le Av Bet Adin, bah, c'est le Din. Rabotai, comment ça se fait qu'avant, on n'avait pas besoin de deux personnalités? Eh bien, simplement parce que Antigonos, d'une certaine façon, et surtout Shimon Hatzadi, ils avaient la capacité du milieu. Le milieu, c'est-à-dire qu'il y a dans ce monde une anaga de la bonté, chesed, mais il y a également le din, il faut être capable de faire la synthèse midat harachamim. C'est ce que nous faisait Shimon Hatzadi, qu'il connaissait les trois piliers sur lesquels le monde se tient. Gmilut Hasadid, Gmilut Hasadim, c'est chesed, la bonté. À Avoda, c'est le din de la Avodat Amigdal, mais il y avait également la Torah au milieu qui rassemblait les deux. Eh oui. Donc, il y a ici, et quelque part, Antigonos c'était pareil, puisqu'Antigonos nous dit, ne soyez pas comme ceux qui servent leur rave pour recevoir un prix, donc fais-le parce qu'il faut le faire, Midat Chesed, et ne sois pas comme celui qui sont pour recevoir quelque chose parce qu'ils méritent, ils ont fait quelque chose, ils méritent Midat Adin, Vimora Shamaim Alechem, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension de Midat Adin, mais pas trop, puisqu'il y a également cette dimension de chesed. Chez Yosef ben Yosef et Yosef ben Yochanan, ben voilà, la Torah se divise en deux courants, din ve chesed. Chacun amènera ce qu'il est, ben, ce qu'il est au mieux. Et donc, ici, on va commencer par Yosef ben Yosef. Yosef ben Yosef, Omer. Vous vous rappelez qu'on est dans l'époque de Hanouka? Vous vous rappelez que c'est les deux qui s'appellent Yosef et qui ont compris que ce qu'ils devaient gagner, c'était la maison? Eh bien, les deux, Yosef ben Yosef et Yosef ben Yochanan, vont ramener toute la Torah à la maison. L'un va dire Yehi Beitra Beitvad Lachachamim. L'autre dira Yehi Beitra Patoach Lirvacha. Alors, je m'occupe pas de Yosef ben Yochanan ce matin, mais on ramène tout à la maison. On comprend que maintenant, la Torah doit passer par la maison juive. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Yosef ben Yosef? Yosef ben Yosef, Omer, Yehi Beitra Beitvad Lachachamim. Que ta maison soit une maison de rencontre de tous les chachamim. Ben, comment tu fais ça? Quand il y a deux chachamim, c'est facile. Il faut que dans ta maison, tu invites les deux. Voire même en même temps. Quand il n'y a qu'un seul chacham, c'est facile. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où tu as un million de chachamim? Où tu as des rabbins, en veux-tu, en voya? Où tu as des livres, tu ne sais plus quoi en faire? Dit Rabbi Chaim de Volozhin. Rabbi Chaim de Volozhin, dans son commentaire sur le traité de Avot, nous dit à propos de cette Mishnah, « Maze yehi beitra beitvad lachachamim » puisque tu ne vas pas pouvoir faire rentrer tous les rabbins du monde dans ta maison. Et là, il te dit, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque. Il faut que dans ta bibliothèque, tu aies tous les chachamim. Bon, ce n'est pas possible non plus parce que ta bibliothèque n'est pas extensible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il te faut de tous les rabbanim dans ta bibliothèque. Tu m'as bien entendu, il te faut de tout. Alors, il ne faut pas tout, parce que tu ne pourras pas arriver à avoir tout. Mais il te faut de tout. Ah non, dans ma bibliothèque, il n'y a que des livres d'Ashkenaz. Chez moi, il n'y a que des rabbins marocains dans ma bibliothèque. Chez moi, il n'y a que des rabbins sionistes. Chez moi, il n'y a que de la chassidoute. Chez moi, il n'y a que des rabbins litaïm. Tu as compris que ça ne marche pas. Parce que c'est une Torah tronquée. Je me souviens que l'une des choses qui m'avait émerveillé quand j'étais arrivé en Israël au Machon Meir, eh bien, j'avais vu que dans la Sifria, pas au Bet HaMidrash, parce qu'il y a place pour mettre tout au Bet HaMidrash, mais dans la grande bibliothèque, j'avais vu qu'il y avait des livres également de rabbins complètement antisionistes. J'avais trouvé là-bas le Vayol Moshe du Rabbi de Satmar et les écrits du Rabbi de Lubavitch qui n'étaient pas du tout portés sur le sionisme. Mais ils étaient des grands maîtres de la Torah, donc évidemment ils faisaient partie. Alors ils n'étaient pas forcément dans la liste des livres à étudier en premier cours, bien sûr, mais ils étaient là. Évidemment qu'un homme il doit faire un choix, tu ne peux pas étudier tout en même temps, il n'y a pas de problème. Mais si c'est présent dans ta bibliothèque, c'est que tu sais que ça a sa place. Ça a sa place. Non, je vais vous dire très clairement, je ne suis pas un élève de la pensée du Chazon Ish, Rabbi Yishayahu Karlitz. Mais tu ne peux pas honnêtement étudier la Torah sans être passé un peu sur le Chazon Ish. parce que c'est une des bases de la compréhension moderne de la Torah. Donc même si tu n'es pas forcément, tu vas pas forcément faire des cours tout le temps sur sa pensée, tu te dois de l'avoir quand même. C'est fondamental. Yehi beitra beitva de la chachamim. Il te faut de tout. Et c'est pour ça que quand je fais des cours, pas sur un livre, mais quand je fais des cours comme ça, sur un sujet X ou Y, et que je balance une feuille de source avec une quinzaine, une vingtaine de sources, j'essaye de faire en sorte qu'il y a des sources qui viennent d'un peu près, pas forcément de tous les courants, mais de plusieurs courants. Parce que tu ne peux pas être cantonné qu'à une façon de penser. Il te faut une globalité de la Torah. Alors, ça semble contredire une autre Mishnah qu'on verra plus tard, qui te dit « Assez lecha rav ». Fais-toi un rav. Et mon maître, le Rav Cherki, de m'expliquer, oui, ça dépend à quel moment de l'évolution de l'homme. Dans le début de son chemin de la Torah, il faut qu'il ait un rav, une colonne vertébrale. Et quand il a été bien construit, alors il doit rentrer à l'intérieur tous les autres hachamim, parce que son cave, sa direction, elle est claire, mais il peut aussi apprendre d'autres choses, d'autres personnes. Et des fois, eh bien, tu vas sortir un chidouche extraordinaire d'un rabbin à qui tu t'es opposé fermement pour d'autres sujets. Asma. C'est pas parce que là, ce rabbin, bah, tu n'as pas été suivre son enseignement, que là, tu ne peux pas suivre son enseignement. Yehi betra betvad lachachamim. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'une fois que tu as rentré tous les rabbins, il ne faudrait pas que tu penses non plus que tu n'es rien face au rabbin. Le rabbin, quel qu'il soit, et je me préfère le dire, quel qu'il soit, peut, évidemment, avoir raison. Mais le rabbin, quel qu'il soit, peut également avoir tort. Et non, mes amis, ça ne casse en rien le niveau du rabbin. Ça ne renie en rien la grandeur que je vois à cette personne. C'est pas parce qu'un rabbin il a tort que c'est plus un rabbin. Et c'est pas parce qu'un rabbin il a tort que c'est plus un grand de la Torah. Tous les rabbins peuvent se tromper. Kulam. Kolel a Rebbe. Même ton Rebbe il peut se tromper. Ça ne veut pas dire que c'est plus ton rêve, mais il peut se tromper. Tu sais pourquoi je dis ça, d'où je me permets de dire ça? Que même le Rabbi Lubavitch, même le Rav Char et même le Rav Kook, ils peuvent se tromper. Sauf que le Rav Kook ne s'est jamais trompé. Mais bon, ça c'est un autre problème. Tout le monde peut se tromper. D'où je le sais? Et bien, simplement parce que je ne pense pas qu'il y ait de plus grand rabbin que Moshe le rabbin. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Bataille? Pachot, Pachot Shemini. Lorsqu'on a la mort tragique de Nadav et Avihu, eh bien, avant même qu'ils soient enterrés, la Avodat Amikdash commence, puisque nous sommes dans les Korbanot Amnesi'im, Amilouim, les Korbanot de l'inauguration du Mishkan. Et à ce moment-là, Moshe dit à Aaron et à ses deux fils restants, Elazar et Itamar, de manger le Korban Khatat qui a été amené aujourd'hui. Il faut bien comprendre, Nadav et Avihu n'ayant pas été encore enterrés, leurs proches, leur famille, papa et deux frères, sont ce qu'on appelle dans la halakha Kohen Onen. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas servir au Beth Amikdash. Et pourtant, Moshe leur a dit, mangez le Korban. Donc ensuite, Moshe il a été faire un petit tour, et quand il revient, il est Veseir Achatat Darosh Darash Moshe, Veine Soraf. Il a demandé, où est le Seir HaChatat? Je ne vois pas les restes. Vous avez mangé le Seir HaChatat? Et Aaron, il dit non. On l'a brûlé. Il dit, comment ça on l'a brûlé? Mais je vous aviez dit de le manger. Vous avez rien compris ou quoi? Et là, Aaron, il dit à Moshe la chose suivante. Moshe, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est toi qui transmets la parole de Dieu au Am Israël. Nous n'avons aucun doute que Dieu t'a dit qu'il ne fallait pas manger... qu'il fallait manger slicha, le korban khatat. Dieu te l'a dit. Et tu nous as dit que Dieu te l'a dit, donc on n'a aucun doute là-dessus. Par contre, nous, on est en train de débattre halakhiquement sur ça veut dire quoi il faut manger le korban khatat. Et ce débat, c'est un débat du Beit HaMidrash. Et au Beit HaMidrash, tu n'es plus Navi. Tu es Raham. Tu peux débattre avec nous. Mais au Beit HaMidrash, on va décider de la halakha. Et peut-être que le plus grand des rabbins sera en avis minoritaire et n'aura pas raison. C'est ce qui s'est passé là-bas. Que Aaron, il a dit, évidemment, qu'il faut manger le korban khatat. Pourquoi? Parce que il s'agit du khatat des Milouim, c'est-à-dire de l'inauguration du Mishkan. C'est un korban qui n'arrivera qu'une seule fois dans l'histoire. Donc, il est évident que ce korban est plus important que mon deuil personnel. Donc, je le mange, celui-là. Aval, il y a un autre khatat, que c'est celui-là que t'as demandé, Moshe. À savoir le khatat de Rosh Chodesh, comme c'est Rosh Chodesh Nissan. Et enfin, un khatat de Rosh Chodesh. Eh bien, celui-là, on ne l'a pas mangé. Parce qu'on s'est dit que ce Rosh Chodesh-là, eh bien, n'est pas plus important que notre deuil personnel, puisqu'on ne mange pas aujourd'hui, on mangera dans un mois. Et donc, on a décidé que ce korban-là, on ne mangeait pas. Et Moshe, il dit, va y taf be'enav. Genre, ouais, t'as raison. C'est toi qui as raison. Je m'étais planté. C'est de cela qu'on parle. Nous dit Yosef ben Yoezer, l'orak shei beitra beitva de la chachamim, elle a veve mitabek. Nous dit le Rabbi Chaim de Volozhin, le Nefesh Chaim, dans son commentaire toujours sur Maseret Avot, veve mitabek, c'est Omer Maavak, bats-toi contre tes rabbins. Si tu n'es pas d'accord avec eux, dis-leur. Oui, mais attention. Deux choses. D'abord, tu as le droit de ne pas être d'accord avec tes rabbins, à une condition. Que tu as un argument. De dire non, ça ne me plaît pas ce que tu dis, Kvod Harav, je ne le sens pas, ce n'est pas un argument. Mais si tu as un argument, yala. Deuxièmement, rappelle-toi que même si tu es cholèque sur ton Rav, même si tu penses qu'il a tort et tu as un argument, et tu sais quoi, même s'il s'avère que toi, tu as raison, tiskor shata be'afar raglehem. Tu scores que le rabbin, il est toujours plus grand que toi, même si toi, tu as eu raison dans le vicoire. Rappelle-toi que toi, tu n'es que la poussière par rapport à ses pieds. Et Mounat Rachamim, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Ça veut dire qu'ils sont des Rachamim, et on le sait. Et que même si là, ils n'ont pas raison, on n'enlève pas notre Emouna dans le fait qu'ils sont Rachamim, mais on continuera à leur demander des conseils. Et c'est exactement de cela qu'on parle ici. Vemve mitabek, mais rappelle-toi que tu es Ba'afar Raglehem. Une fois qu'on a dit ça, veveshote batsama et divrei, et bois leurs paroles comme si tu étais tout le temps assoiffé. Bizarre, une fois que tu as bu, tu n'es plus assoiffé. Justement, ne bois pas à satiété. Ne bois pas de sorte que tu ne sois plus assoiffé. Il faut que la Torah que tu vas enseigner, tu vas apprendre de tes maîtres, eh bien, tu veuilles toujours l'apprendre comme si tu étais toujours assoiffé de vouloir connaître plus. En fait, quand tu étudies la Torah, plus tu étudies, plus tu te rends compte qu'il y a des choses à étudier. Ça peut briser quelqu'un, mais ça peut au contraire l'élever, à lui faire prendre conscience qu'il doit toujours aller chercher encore plus loin pour comprendre la volonté du Créateur. Et aussi, comme on a dit, Shoté Batsama et d'Ivrem, y compris de ceux qui auraient pu avoir tort. Parce que même apprendre la vie qui a été rejetée, eh bien, ça va t'aider à comprendre la vie qui a été gardée. C'est ce que Rabbi Nachman de Breslav explique quand il appelle la différence entre tzadik v'tovlo et tzadik v'ralo. Il dit tzadik v'tovlo, c'est un tzadik, et la halakha, elle est comme son avis. Alors tovlo. Alors qu'un tzadik v'ralo, c'est un tzadik, mais la halakha, elle n'est pas comme son avis. Alors ralo. Il y a des rabbanim où la halakha n'est pas comme eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas grands, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, et ça ne veut pas dire que la halakha, elle ne sera jamais comme eux. À bientôt les amis!